Madame d'Aulnoy, la princesse Belle Étoile, deuxième partie. Après avoir considéré une chose si épouvantable, il descendit, rêvant à ce qu'il allait faire, et il se dit plus d'une fois qu'il était perdu. Comme il approchait de ce grand feu, il mourait de soif. Il trouva une fontaine qui sortait de la montagne et qui tombait dans un grand bassin de marbre. Il mit pied à terre, s'en approcha, et se baisser pour puiser de l'eau dans un petit vase d'or qu'il avait apporté, afin d'y mettre celle que la princesse souhaitait, quand il aperçut une tourterelle qui se noyait dans cette fontaine. Ses plumes étaient toutes mouillées. Elles n'avaient plus de force et coulaient au fond du bassin. Chéri en eut pitié, il la sauva. Il la pendit d'abord par les pieds. Elle avait tant bu qu'elle en était enflée. Ensuite, il la réchauffa. Il essuya ses ailes avec un mouchoir fin, il la secourut si bien que la pauvre tourterelle se trouva au bout d'un moment plus gaie qu'elle n'avait été triste. « Seigneur chéri, lui dit-elle d'une voix douce et tendre, vous n'avez jamais obligé petit animal plus reconnaissant que moi. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai reçu des faveurs essentielles de votre famille, je suis ravie de pouvoir vous être utile à mon tour. Ne croyez donc pas que j'ignore le sujet de votre voyage. » Vous l'avez entrepris un peu témérairement, car l'on ne saurait nombrer les personnes qui sont périsses ici. L'Occident est la huitième merveille du monde pour les dames. Elle embellit, elle rajeunit, elle enrichit. Mais si je ne vous sers de guide, vous n'y pourrez arriver, car la source sort à gros bouillons du milieu de la forêt et s'y précipite dans un gouffre. Le chemin est couvert de branches d'arbres qui tombent tout embrasées, et je ne vois guère d'autre moyen que d'y aller par-dessous terre. Reposez-vous donc ici, sans inquiétude, je vais ordonner ce qu'il faut. » En même temps, la tourterelle s'élève en l'air, va, vient, s'abaisse, vole et revole tant et tant que, sur la fin du jour, elle dit au prince que tout était prêt. Il prend l'officieux oiseau, il le baise, il le caresse, le remercie et le suit sur son beau cheval blanc. À peine eut-il fait 100 pas qu'il voit 2 longues files de renards, blaireaux, taupes, escargots, fourmis et de toutes sortes de bêtes qui se cachent dans la terre. Il y en avait une si prodigieuse quantité qu'il ne comprenait point par quel pouvoir ils s'étaient ainsi rassemblés. « C'est par mon ordre, lui dit la tourterelle, que vous voyez en ces lieux ce petit peuple souterrain. Il vient de travailler pour votre service et faire une extrême diligence. » Vous me ferez plaisir de les en remercier. » Le prince les salua et leur dit qu'il voudrait les tenir dans un lieu moins stérile, qui les régalerait avec plaisir. Chaque bestiole parut contente. Chéri étant à l'entrée de la voûte, il laissa son cheval. Puis, demi-courbé, il chemina avec la bonne tourterelle, qui le conduisit très heureusement jusqu'à la fontaine. Elle faisait un si grand bruit qu'il en serait devenu sourd si elle ne lui avait pas donné 2 de ses plumes blanches dont il se boucha les oreilles. Il fut étrangement surpris de voir que cette eau dansait avec la même justesse que si Favier Pécou lui avait montré. Il est vrai que ce n'était que de vieilles danses comme la bocane, la mariée et la sarabande. Plusieurs oiseaux qui voltigeaient en l'air chantaient les airs que l'eau voulait danser. Le prince en puisa plein son vase d'or, il en but 2 traits qui le rendirent 100 fois plus beau qu'il n'était et qui le rafraîchirent si bien qu'il s'apercevait à peine que de tous les endroits du monde, le plus chaud, c'est la forêt lumineuse. Il en partit par le même chemin par lequel il était venu. Son cheval s'était éloigné, mais fidèle à sa voix, dès qu'il l'appela, il vint au grand galop. Le prince se jeta légèrement dessus, tout fier d'avoir l'eau qui danse. « Tendre tourterelle, dit-il à celle qu'il tenait, j'ignore encore par quel prodige vous avez tant de pouvoir en ces lieux. Les effets que j'en ai ressentis m'engagent à beaucoup de reconnaissance. Et comme la liberté est le plus grand des biens, je vous rends la vôtre pour égaler par cette faveur celle que vous m'avez faite. » En achevant ces mots, il la laissa aller. Elle s'envola d'un petit air aussi farouche que si elle eût resté avec lui contre son gré. « Quelle inégalité, dit-il alors, tu tiens plus de l'homme que de la tourterelle. L'un est inconstant, l'autre ne l'est point. » La tourterelle lui répondit du haut des airs, Et savez-vous qui je suis ? Chéri s'étonna que la tourterelle eût répondu ainsi à sa pensée. Il jugea bien qu'elle était très habile. Il fut fâché de l'avoir laissée aller. « Elle m'aurait peut-être été utile, disait-il, et j'aurais appris par elle bien des choses qui contribueraient au repos de ma vie. » Cependant, il convint avec lui-même qu'il ne faut jamais regretter un bienfait accordé. Il se trouvait son redevable quand il pensait aux difficultés qu'elle lui avait aplanies pour avoir l'eau qui danse. Son vase d'or était fermé, de manière que l'eau ne pouvait ni se perdre, ni s'évaporer. Il pensait agréablement au plaisir qu'aurait Belle Étoile en la recevant et la joie qu'il aurait de la revoir lorsqu'il lui venir à toute bride plusieurs cavaliers qui ne l'eurent pas plutôt aperçu que, poussant de grands cris, ils se le montrèrent les uns aux autres. Il n'eut point de peur, son âme avait un caractère d'intrépidité qui s'alarmait peu des périls. Cependant, il ressentit beaucoup de chagrin que quelque chose l'arrêta. Il poussa brusquement son cheval vers eux et resta agréablement surpris de reconnaître une partie de ses domestiques qui lui présentèrent de petits billets, ou pour mieux dire, des ordres dont la princesse les avait chargés pour lui, afin qu'il ne s'exposât point au danger de la forêt lumineuse. Il baisa l'écriture de Belle Étoile, il soupira plus d'une fois, et se hâtant de retourner vers elle, il la retira de la plus sensible peine que l'on puisse éprouver. Il la trouva en arrivant, assise sous quelques arbres, où elle s'abandonnait à toute son inquiétude. Quand elle le vit à ses pieds, elle ne savait quel accueil lui faire. Elle voulait le gronder d'être partie contre ses ordres, elle voulait le remercier du charmant présent qu'il lui faisait. Enfin, sa tendresse fut la plus forte. Elle embrassa son cher frère, et les reproches qu'elle lui fit n'eurent rien de fâcheux. La vieille feintise, qui ne s'endormait pas, sut par ses espions que Chéri était de retour, plus beau qu'il n'était avant son départ, et que la princesse, ayant mis sur son visage l'eau qui danse, était devenue si excessivement belle qu'il n'y avait pas moyen de soutenir le moindre de ses regards sans mourir de plus d'une demi-douzaine de morts. Feintise fut bien étonnée et bien affligée, car elle avait fait son compte que le prince périrait dans une si grande entreprise. Mais il n'était pas temps de se rebuter. Elle chercha le moment que la princesse allait à un petit temple de Diane, peu accompagnée. Elle l'aborda et lui dit d'un air plein d'amitié « Que j'ai de joie, madame, de l'heureux effet de mes avis. Il ne faut que vous regarder pour savoir que vous avez à présent l'eau qui danse. Mais si j'osais vous donner un conseil, vous songeriez à vous rendre maîtresse de la pomme qui chante. C'est tout autre chose encore. » car elle embellit l'esprit à tel point qu'il n'y a rien dont on ne soit capable. Veut-on persuader quelque chose, il n'y a qu'à tenir la pomme qui chante. Veut-on parler en public, faire des vers, écrire en prose, divertir, faire rire ou faire pleurer? La pomme a toutes ses vertus, et elle chante si bien et si haut qu'on l'entend de 8 lieues sans en être étourdi. « Je n'en veux point !» s'écria la princesse. Vous avez pensé faire périr mon frère avec votre eau qui danse? Vos conseils sont trop dangereux. Quoi, madame? Répliqua Feintise. Vous seriez fâchée d'être la plus savante et la plus spirituelle personne du monde. En vérité, vous n'y pensez pas. Ah, qu'aurais-je fait? Continua Belle Étoile, si l'on m'avait rapporté le corps de mon cher frère, mort ou mourant. « Celui-là, dit la vieille, n'ira plus, les autres sont obligés de vous servir à leur tour, et l'entreprise est moins périlleuse. »« N'importe, ajouta la princesse, je ne suis pas d'humeur à les exposer. »« En vérité, je vous plains, dit Feintise, de perdre une occasion si avantageuse, mais vous y ferez réflexion. Adieu, madame. » Elle se retira aussitôt, très inquiète du succès de sa harangue, et Belle Étoile demeura au pied de la statue de Diane, irrésolue sur ce qu'elle devait faire. Elle aimait ses frères, elle s'aimait bien aussi. Elle comprenait que rien ne pouvait lui faire un plus sensible plaisir que d'avoir la pomme qui chante. Elle soupira longtemps, puis elle se prit à pleurer. Petit Soleil revenait de la chasse. Il entendit du bruit dans le temple, il y entra et vit la princesse qui se couvrait le visage de son voile parce qu'elle était honteuse d'avoir les yeux tout humides. Il avait déjà remarqué ses larmes et, s'approchant d'elle, il la conjura instamment de lui dire pourquoi elle pleurait. Elle s'en défendit, répliquant qu'elle en avait honte elle-même. Mais plus elle lui refusait son secret, plus il avait envie de savoir. Enfin, elle lui dit que la même vieille, qui lui avait conseillé d'envoyer à la conquête de l'eau qui danse, venait de lui dire que la pomme qui chante était encore plus merveilleuse parce qu'elle donnait tant d'esprit qu'on devenait une espèce de prodige, qu'à la vérité, elle aurait donné la moitié de sa vie pour une telle pomme, mais qu'elle craignait qu'il n'y eût trop de danger à l'aller chercher. « Vous n'aurez pas peur pour moi, je vous assure, » lui dit son frère en souriant, « car je ne me trouve aucune envie de vous rendre ce bon office. « Eh quoi, n'avez-vous pas assez d'esprit ? « Venez, venez, ma sœur, » continua-t-il, « et cessez de vous affliger. » Belle Étoile le suivit, aussi triste de la manière dont il avait reçu sa confidence que de l'impossibilité qu'elle trouvait à posséder la pomme qui chante. L'on servit le souper, ils se mirent tous quatre à table. Elle ne pouvait manger. Chérie, l'aimable chérie, qui n'avait d'attention que pour elle, lui servit ce qui était de meilleur et la pressa d'en goûter. Au premier morceau, son cœur se grossit. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle sortit de table en pleurant. Belle Étoile pleurait. Oh Dieu, quel sujet d'inquiétude pour chérie! Il demanda donc ce qu'elle avait. Petit Soleil le lui dit en raillant d'une manière assez désobligeante pour sa sœur. Elle en fut si piquée qu'elle se retira dans sa chambre et ne voulut parler à personne de tout le soir. Dès que Petit Soleil et Heureux furent couchés, Chérie monta sur son excellent cheval blanc sans dire à personne où il allait. Il laissa seulement une lettre pour Belle Étoile avec ordre de la lui donner à son réveil. Et tant que la nuit fut longue, il marcha à l'aventure, ne sachant point où il prendrait la pomme qui chante. Lorsque la princesse fut levée, on lui présenta la lettre du prince. Il est aisé de s'imaginer tout ce qu'elle ressentit d'inquiétude et de tendresse dans une occasion comme celle-là. Elle courut dans la chambre de ses frères pour leur en faire la lecture. Ils partagèrent ses alarmes, car ils étaient fort unis. Et aussitôt, ils envoyèrent presque tous leurs gens après lui pour l'obliger de revenir sans tenter cette aventure qui, sans doute, devait être terrible. Cependant, le roi n'oubliait point les beaux enfants de la forêt. Ses pas le guidaient toujours de leur côté et quand il passait proche de chez eux et qu'il les voyait, il leur faisait des reproches de ce qu'ils ne venaient point à son palais. Il s'en était excusé d'abord sur ce qu'il faisait travailler à leur équipage. Ils s'en excusèrent sur l'absence de leur frère et l'assurèrent qu'à son retour, ils profiteraient soigneusement de la permission qu'il leur donnait de lui rendre leur très humble respect. Le prince chéri était trop pressé de sa passion pour manquer à faire beaucoup de diligence. Il trouva à la pointe du jour un jeune homme bien fait qui, se reposant sous des arbres, lisait dans un livre. Il l'aborda d'un air civil et lui dit « Trouvez bon que je vous interrompe pour vous demander si vous ne savez point en quel lieu est la pomme qui chante. » Le jeune homme haussa les yeux et souriant gracieusement. « En voulez-vous faire la conquête ? » lui dit-il. « Oui, s'il m'est possible, » repartit le prince. « Ah, seigneur, » ajouta l'étranger, « vous n'en savez donc pas tous les périls ? Voilà un livre qui en parle, sa lecture est frais. » « N'importe, dit Chéri, le danger ne sera point capable de me rebuter. Enseignez-moi seulement où je pourrai la trouver. » Le livre marque, continua cet homme, qu'elle est dans un vaste désert en Libye, qu'on l'entend chanter de 8 lieues et que le dragon qui la garde a déjà dévoré 500 000 personnes qui ont eu la témérité d'y aller. « Je serai la 500 001e, répondit le prince en souriant à son tour. Et, le saluant, il prit son chemin du côté des déserts de Libye. Son beau cheval, qui était de race zéphyrienne, car Zéphyr était son aïeul, allait aussi vite que le vent, de sorte qu'il fit une diligence incroyable. Il avait beau écouter, il n'entendait d'aucun côté chanter la pomme. Il s'affligeait de la longueur du chemin, de l'inutilité du voyage, lorsqu'il aperçut une pauvre tourterelle qui tombait à ses pieds. Elle n'était pas encore morte, mais il ne s'en fallait guère. Comme il ne voyait personne qui pût l'avoir blessée, il crut qu'elle était peut-être à Vénus et que, s'étant échappée de son colombier, ce petit mutin d'amour pour essayer ses flèches, l'avait tiré. Il en eut pitié. Il descendit de cheval, il la prit, il essuya ses plumes blanches, déjà teintes de sang vermeil, et, tirant de sa poche un flacon d'or, où il portait un baume admirable pour les blessures, il en eut à peine mis sur celle de la tourterelle malade, qu'elle ouvrit les yeux, leva la tête, déploya les ailes, s'éplucha. Puis, regardant le prince, « Bonjour, beau chéri, lui dit-elle, vous êtes destiné à me sauver la vie, et je le suis peut-être à vous rendre de grands services. Vous venez pour conquérir la pomme qui chante. L'entreprise est difficile et digne de vous, car elle est gardée par un dragon affreux qui a 12 pieds, 3 têtes, 6 ailes et tout le corps de bronze. » « Ah, ma chère tourterelle, lui dit le prince, quelle joie pour moi de te revoir, et dans un temps où ton secours m'est si nécessaire. Ne me le refuse pas, ma belle petite, car je mourrai de douleur si j'avais la honte de retourner sans la pomme qui chante. Et puisque j'ai eu l'eau qui danse par ton moyen, j'espère que tu en trouveras encore quelqu'un pour me faire réussir dans mon entreprise. » « Vous me touchez, repartit tendrement la tourterelle. « Suivez-moi, je vais voler devant vous, j'espère que tout ira bien. » Le prince la laissa aller. Après avoir marché tout le jour, ils arrivèrent proche d'une montagne de sable. « Il faut creuser ici, » lui dit la tourterelle. Le prince, aussitôt, sans se rebuter de rien, se mit à creuser, tantôt avec ses mains, tantôt avec son épée. Au bout de quelques heures, il trouva un casque, une cuirasse, et le reste de l'armure, avec l'équipage pour son cheval, entièrement de miroir. Armez-vous, dit la tourterelle, et ne craignez point le dragon. Quand il se verra dans tous ces miroirs, il aura tant peur que, croyant que ce sont des monstres comme lui, il s'enfuira. Chéri approuva beaucoup cet expédient. Il s'arma des miroirs, et, reprenant la tourterelle, ils allèrent ensemble toute la nuit. Au point du jour, ils entendirent une mélodie ravissante. Le prince pria la tourterelle de lui dire ce que c'était. « Je suis persuadée, dit-elle, qu'il n'y a que la pomme qui puisse être si agréable, car elle fait seule toutes les parties de la musique et sans toucher aucun instrument. Il semble qu'elle en joue d'une manière ravissante. » Ils s'approchaient toujours. Le prince pensait en lui-même qu'il voudrait bien que la pomme chantât quelque chose qui convînt à la situation où il était. En même temps, il entendit ces paroles. « L'amour peut surmonter le cœur le plus rebelle. Ne cessez point d'être amoureux. Vous qui suivez les lois d'une beauté cruelle, aimez, persévérez, et vous serez heureux. » « Ah ! S'écria-t-il, répondant à ses vers. « Quelle charmante prédiction! Je puis espérer d'être un jour plus content que je ne le suis. L'on vient de me l'annoncer. » La tourterelle ne lui dit rien là-dessus, elle n'était pas née babillarde et ne parlait que pour les choses indispensablement nécessaires. À mesure qu'il avançait, la beauté de la musique augmentait, et quelque empressement qu'il eût, il était quelquefois si ravi qu'il s'arrêtait sans pouvoir penser à rien qu'à écouter. Mais la vue du terrible dragon, qui parut tout d'un coup avec ses 12 pieds et plus de 100 griffes, les 3 têtes et son corps de bronze, le retira de cette espèce de léthargie. Il avait senti le prince de fort loin et l'attendait pour le dévorer, comme tous les autres, dont il avait fait des repas excellents. Leurs os étaient rangés autour du pommier où était la belle pomme. Il s'élevait si haut qu'on ne pouvait la voir. L'affreux animal s'avança en bondissant. Il couvrit la terre d'une écume empoisonnée très dangereuse. Il sortait de sa gueule infernale du feu et de petits dragonneaux qui lançaient comme des dards dans les yeux et les oreilles des chevaliers errants qui voulaient emporter la pomme. Mais lorsqu'il vit son effrayante figure, multipliée 100 et 100 fois dans tous les miroirs du prince, ce fut lui, à son tour, qui eut peur. Il s'arrêta et, regardant fièrement le prince chargé de dragons, il ne songea plus qu'à s'enfuir. Chéri, s'apercevant de l'heureux effet de son armure, le poursuivit jusqu'à l'entrée d'une profonde caverne, où il se précipita pour l'éviter. Il en ferma bien vite l'entrée et se dépêcha de retourner vers la pomme qui chante. Après avoir monté par-dessus tous les eaux qui l'entouraient, il vit ce bel arbre avec admiration. Il était d'ambre, les pommes de topaze, et la plus excellente de toutes, qu'il cherchait avec tant de soins et de périls, paraissait au haut, faite d'un seul rubis, avec une couronne de diamants dessus. Le prince, transporté de joie de pouvoir donner un trésor si parfait et si rare à Belle Étoile, se hâta de casser la branche d'ambre. Et, tout fier de sa bonne fortune, il monta sur son cheval blanc, mais il ne trouva plus la tourterelle. Dès que ses soins lui furent inutiles, elle s'envola. Sans perdre de temps en regrets superflus, comme il craignait que le dragon, dont il entendait les sifflements, ne trouvât quelque route pour venir à ses pommes, il retourna avec la sienne vers la princesse. Elle avait perdu l'usage de dormir depuis son absence. Elle se reprochait sans cesse son envie d'avoir plus d'esprit que les autres. Elle craignait plus la mort de chéri que la sienne. « Ah, malheureuse » s'écriait-elle, en poussant de profonds soupirs. « Fallait-il que j'eusse cette vaine gloire? Ne me suffisait-il pas de penser et de parler assez bien pour ne faire et ne dire rien d'impertinent? Je serai bien punie de mon orgueil si je perds celui que j'aime. » « Hélas !» continua-t-elle, « peut-être que les dieux, irrités des sentiments que je ne puis me défendre d'avoir pour chéri, veulent me l'ôter par une fin tragique. » Il n'y avait rien que son cœur affligé n'imagina, quand, au milieu de la nuit, elle entendit une musique si merveilleuse qu'elle ne put s'empêcher de se lever et de se mettre à sa fenêtre pour l'écouter mieux. Elle ne savait que s'imaginer. Tantôt, elle croyait que c'était Apollon et les Muses, tantôt Vénus, les grâces et les amours. La symphonie s'approchait toujours et Belle Étoile écoutait. Enfin, le prince arriva. Il faisait un grand clair de lune. Il s'arrêta sous le balcon de la princesse qui s'était retirée quand elle aperçut de loin un cavalier. La pomme chanta aussitôt « Réveillez-vous, belle endormie !» La princesse, curieuse, regarda promptement qui pouvait chanter si bien et, reconnaissant son cher frère, elle pensa se précipiter de sa fenêtre en bas pour être plus tôt auprès de lui. Elle parla si haut que tout le monde s'étant éveillé, l'on vint ouvrir la porte à chéri. Il entra avec un empressement que l'on peut assez se figurer. Il tenait dans sa main la branche d'ambre, au bout de laquelle était le merveilleux fruit. Et comme il avait senti souvent, son esprit s'était augmenté à tel point que rien dans le monde ne pouvait lui être comparable. Belle Étoile courut au-devant de lui avec une grande précipitation. « Pensez-vous que je vous remercie, mon cher frère ?» lui dit-elle en pleurant de joie. « Non, il n'est point de bien que je n'achète trop cher quand vous vous exposez pour me l'acquérir. » « Il n'est point de péril, lui dit-il, auquel je ne veuille toujours me hasarder pour vous donner la plus petite satisfaction. Recevez, belle étoile, continua-t-il, recevez ce fruit unique. Personne au monde ne le mérite si bien que vous. Mais que vous donnera-t-il que vous n'ayez déjà ?» Petit Soleil et son frère vinrent interrompre cette conversation. Ils eurent un sensible plaisir de revoir le prince. Il leur raconta son voyage et cette relation les mena jusqu'au jour. La mauvaise Feintise était revenue dans sa petite maison après avoir entretenu la reine-mère de ses projets. Elle avait trop d'inquiétude pour dormir tranquillement. Elle entendit le doux chant de la pomme que rien dans la nature ne pouvait égaler. Elle ne douta point que la conquête n'en fût faite. Elle pleura, elle gémit, elle s'égratigna le visage, elle s'arracha les cheveux. Sa douleur était extrême, car au lieu de faire du mal aux beaux enfants, comme elle l'avait projeté, elle leur faisait du bien, quoiqu'il n'entrât que de la perfidie dans ses conseils. Dès qu'il fut jour, elle apprit que le retour du prince n'était que trop vrai. Elle retourna chez la reine-mère. « Eh bien, lui dit cette princesse, Feintise, m'apportes-tu de bonnes nouvelles ? Les enfants ont-ils péri ?»« Non, madame, dit-elle en se jetant à ses pieds. « Mais que votre majesté ne s'impatiente point, il me reste des moyens infinis de vous en délivrer. »« Ah, malheureuse, dit la reine, tu n'es au monde que pour me trahir, tu les épargnes. » La vieille protesta bien le contraire, et quand elle l'eut un peu apaisée, elle s'en revint pour rêver à ce qu'il fallait faire. Elle laissa passer quelques jours sans paraître, au bout desquels elle épia si bien qu'elle trouva dans une route de la forêt la princesse qui se promenait seule, attendant le retour de ses frères. « Le ciel vous comble de bien !» lui dit cette scélérate en l'abordant. Charmante étoile, j'ai appris que vous possédez la pomme qui chante. Certainement, quand cette bonne fortune me serait arrivée, je n'en aurais pas plus de joie. Car il faut avouer que j'ai pour vous une inclination qui m'intéresse à tous vos avantages. Cependant, continua-t-elle, je ne peux m'empêcher de vous donner un nouvel avis. Ah, gardez vos avis ! S'écria la princesse en s'éloignant d'elle. Quelque bien qu'ils m'apportent, ils ne sauraient me payer l'inquiétude qu'ils m'ont causée. L'inquiétude n'est pas un si grand mal, repartit-elle en souriant. Il en est de douces et de tendres. Taisez-vous, ajouta Belle Étoile, je tremble quand j'y pense. Il est vrai, dit la vieille, que vous êtes fort à plaindre d'être la plus belle et la plus spirituelle fille de l'univers. Je vous en fais mes excuses. Encore un coup, répliqua la princesse, je sais suffisamment l'état où l'absence de mon frère m'a réduite. Il faut malgré cela que je vous dise, continua Feintise, qu'il vous manque encore le petit oiseau vert qui dit tout. Vous seriez informé par lui de votre naissance, des bons et des mauvais succès de la vie. Il n'y a rien de si particulier qu'il ne nous découvrit. Et lorsqu'on dira dans le monde « Belle étoile à l'eau qui danse et la pomme qui chante », l'on dira en même temps « Elle n'a pas le petit oiseau vert qui dit tout ». Et il vaudrait presque autant qu'elle n'eût rien. Après avoir débité ainsi ce qu'elle avait dans l'esprit, elle se retira. La princesse, triste et rêveuse, commença à soupirer amèrement. « Cette femme a raison, disait-elle. De quoi me servent les avantages que je reçois de l'eau et de la pomme, puisque j'ignore qui je suis, qui sont mes parents et par quelle fatalité mes frères et moi avons été exposés à la fureur des ondes. Il faut qu'il y ait quelque chose de bien extraordinaire dans notre naissance pour nous abandonner ainsi, et une protection bien évidente du ciel pour nous avoir sauvés de tant de périls. Quel plaisir n'aurais-je point de connaître mon père et ma mère, de les chérir s'ils sont encore vivants, et d'honorer leur mémoire s'ils sont morts. » Là-dessus, les larmes vinrent avec abondance couvrir ses joues, semblables aux gouttes de la rosée qui paraît le matin sur les lys et sur les roses. Chéri, qui avait toujours plus d'impatience de la voir que les autres, s'était hâté après la chasse de revenir. Il était à pied, son arc pendait négligemment à son côté, sa main était armée de quelques flèches, ses cheveux rattachés ensemble. Il avait en cet état un air martial qui plaisait infiniment. Dès que la princesse l'aperçut, elle entra dans une allée sombre afin qu'il ne vît pas les impressions de douleur qui étaient sur son visage. Mais une maîtresse ne s'éloigne pas si vite qu'un amant bien empressé ne la joigne. Le prince l'aborda. Il eut à peine jeté les yeux sur elle qu'il connut qu'elle avait quelque peine. Il s'en inquiète, il la prie, il la presse de lui en apprendre le sujet. Elle s'en défend avec opiniâtreté. Enfin, il tourne la pointe d'une de ses flèches contre son cœur. « Vous ne m'aimez point, belle étoile, lui dit-il, je n'ai plus qu'à mourir. » La manière dont il lui parla la jeta dans la dernière alarme. Elle n'eut plus la force de lui refuser son secret. Mais elle ne le lui dit qu'à condition qu'il ne chercherait de sa vie les moyens de satisfaire le désir qu'elle avait. Il lui promit tout ce qu'elle exigeait et ne marqua point qu'il voulût entreprendre ce dernier voyage. Aussitôt qu'elle se fut retirée dans sa chambre et les princes dans les leurs, il descendit en bas, tira son cheval de l'écurie, monta dessus et partit sans en parler à personne. Cette nouvelle jeta la belle famille dans une étrange consternation. Le roi, qui ne pouvait les oublier, les envoya prier de venir dîner avec lui. Ils répondirent que leur frère venait de s'absenter, qu'ils ne pouvaient avoir de joie ni de repos sans lui, et qu'à son retour, ils ne manqueraient pas d'aller au palais. La princesse était inconsolable. L'eau qui danse et la pomme qui chante n'avaient plus de charme pour elle. Sans chéri, rien ne lui était agréable. Le prince s'en alla, errant par le monde. Il demandait à ceux qu'il rencontrait où il pourrait trouver le petit oiseau vert qui dit tout. La plupart l'ignoraient. Mais il rencontra un vénérable vieillard qui, l'ayant fait entrer dans sa maison, voulut bien prendre la peine de regarder sur un globe qui faisait une partie de son étude et de son divertissement. Il lui dit ensuite qu'il était dans un climat glacé, sur la pointe d'un rocher affreux, et il lui enseigna la route qu'il devait tenir. Le prince, par reconnaissance, lui donna plein un petit sac de grosses perles qui étaient tombées de ses cheveux, et, prenant congé de lui, il continua son voyage. Enfin, au lever de l'aurore, il aperçut le rocher, fort haut et fort escarpé. Et sur le sommet, l'oiseau qui parlait comme un oracle, disant des choses admirables. Il comprit qu'avec un peu d'adresse, il était aisé de l'attraper, car il ne paraissait point farouche. Il allait et venait, sautant légèrement d'une pointe sur l'autre. Le prince descendit de cheval, et montant sans bruit, malgré l'âpreté de ce mont, il se promettait le plaisir d'en faire un sensible à belle étoile. Il se voyait si proche de l'oiseau vert qu'il croyait le prendre, lorsque le rocher, s'ouvrant tout d'un coup, il tomba dans une spacieuse salle aussi immobile qu'une statue. Il ne pouvait ni remuer, ni se plaindre de sa déplorable aventure. 300 chevaliers qu'il avait tentés comme lui étaient au même état. Ils s'entre-regardaient, c'était la seule chose qui leur était permise. Le temps semblait si long à Belle Étoile que, ne voyant point revenir son chéri, elle tomba dangereusement malade. Les médecins connurent bien qu'elle était dévorée par une profonde mélancolie. Ses frères l'aimaient tendrement. Ils lui parlèrent de la cause de son mal. Elle leur avoua qu'elle se reprochait nuit et jour l'éloignement de chéri, qu'elle sentait bien qu'elle mourrait si elle n'apprenait pas de ses nouvelles. Ils furent touchés de ses larmes et pour la guérir, Petit Soleil résolut d'aller chercher son frère. Ce prince partit. Il sut en quel lieu était le fameux oiseau. Il y fut, il le vit. Il s'en approcha avec les mêmes espérances. Et dans ce moment, le rocher l'engloutit, il tomba dans la grande salle. La première chose qui arrêta ses regards, ce fut Chéri, mais il ne put lui parler. Belle Étoile était un peu convalescente. Elle espérait à chaque moment de voir revenir ses deux frères. Mais ses espérances étant déçues, son affliction prit de nouvelles forces. Elle ne cessait plus jour et nuit de se plaindre. Elle s'accusait du désastre de ses frères. Et le prince heureux, n'ayant pas moins pitié d'elle que d'inquiétude pour les princes, prit à son tour la résolution de les aller chercher. Il le dit à Belle Étoile. Elle voulut d'abord s'y opposer, mais il répliqua qu'il était bien juste qu'il s'exposât pour trouver les personnes du monde qui lui étaient les plus chères. Là-dessus, il partit, après avoir fait de tendres adieux à la princesse. Elle resta seule, en proie à la plus vive douleur. Quand Feintise sut que le troisième prince était en chemin, elle se réjouit infiniment. Elle en avertit la reine-mère et lui promit plus fortement que jamais la perte de toute cette infortunée famille. En effet, Heureux eut une aventure semblable à Chéri et à Petit Soleil. Il trouva le rocher, il vit le bel oiseau, et il tomba comme une statue dans la salle où il reconnut les princes qu'il cherchait sans pouvoir leur parler. Ils étaient tous arrangés dans des niches de cristal. Ils ne dormaient jamais, ne mangeaient point et restaient enchantés d'une manière bien triste, car ils avaient seulement la liberté de rêver et de déplorer leur aventure. Belle Étoile, inconsolable, ne voyant revenir aucun de ses frères, se reprocha d'avoir tardé si longtemps à les suivre. Sans hésiter davantage, elle donna ordre à tous ses gens de l'attendre 6 mois. Mais que, si ses frères ou elle ne revenaient pas dans ce temps, ils retournassent apprendre leur mort au corsaire et à sa femme. Ensuite, elle prit un habit d'homme, trouvant qu'il y avait moins à risquer pour elle, ainsi travestie dans son voyage, que si elle était allée en aventurière courir le monde. Feintise la vit partir dessus son beau cheval. Elle se trouva alors comblée de joie et courut au palais régaler la reine-mère de cette bonne nouvelle. La princesse s'était armée seulement d'un casque dont elle ne levait presque jamais la visière, car sa beauté était si délicate et si parfaite qu'on n'aurait pas cru, comme elle le voulait, qu'elle était un cavalier. La rigueur de l'hiver se faisait ressentir et le pays où était le petit oiseau qui dit tout ne recevait en aucune saison les heureuses influences du soleil. Belle Étoile avait un étrange froid, mais rien ne pouvait la rebuter lorsqu'elle vit une tourterelle qui n'était guère moins blanche et guère moins froide que la neige, laquelle était étendue. Malgré son impatience d'arriver au rocher, elle ne voulut pas la laisser mourir et, descendant de cheval, elle la prit entre ses mains, la réchauffa de son haleine, puis la mit dans son sein. La pauvre petite ne remuait plus. Belle Étoile pensait qu'elle était morte, elle y avait regret. Elle la tira, et la regardant, elle lui dit, comme si elle eût pu l'entendre, « Que ferais-je, bien aimable tourterelle, pour te sauver la vie ?»« Belle Étoile, répondit la bestiole, un doux baiser de votre bouche peut achever ce que vous avez si charitablement commencé. » « Non, pas un, dit la princesse, mais cent s'il les faut. » Elle la baisa, et la tourterelle, reprenant courage, lui dit gaiement, « Je vous connais malgré votre déguisement. Sachez que vous entreprenez une chose qui vous serait impossible sans mon secours. Faites donc ce que je vais vous conseiller. Dès que vous serez arrivé au rocher, au lieu de chercher le moyen d'y monter, arrêtez-vous au pied et commencez la plus belle chanson et la plus mélodieuse que vous sachiez. » L'oiseau vert qui dit tout vous écoutera et remarquera d'où vient cette voix. Ensuite, vous feindrez de vous endormir. Je resterai auprès de vous. Quand il me verra, il descendra de la pointe du rocher pour me becqueter. C'est dans ce moment que vous le pourrez prendre. La princesse, ravie de cette espérance, arriva presque aussitôt au rocher. Elle reconnut les chevaux de ses frères qui broutaient l'herbe. Cette vue renouvela toutes ses douleurs. Elle s'assit et pleura longtemps amèrement. Mais le petit oiseau vert disait de si belles choses et si consolantes pour les malheureux qu'il n'y avait point de cœur affligé qu'il ne réjouît. De sorte qu'elle essuya ses larmes et se mit à chanter si haut et si bien que les princes, au fond de leur salle enchantée, eurent le plaisir de l'entendre. Ce fut le premier moment où ils sentirent quelque espérance. Le petit oiseau vert qui dit tout écoutait et regardait d'où venait cette voix. Il aperçut la princesse qui avait ôté son casque pour dormir plus commodément et la tourterelle qui voltigeait autour d'elle. À cette vue, il descendit doucement et vint la becqueter. Mais il ne lui avait pas arraché trois plumes, qu'il était déjà pris. « Ah, que me voulez-vous ? » lui dit-il. « Que vous ai-je fait pour venir de si loin me rendre si malheureux ? « Accordez-moi ma liberté, je vous en conjure. Voyez ce que vous souhaitez en échange. Il n'y a rien que je ne fasse. »« Je désire, lui dit Belle Étoile, que tu me rendes mes trois frères. Je ne sais où ils sont, mais leurs chevaux qui paissent près de ce rocher me font connaître que tu les retiens en quelque lieu. J'ai sous mon aile gauche une plume incarnate. Arrachez-la, lui dit-il, servez-vous-en pour toucher le rocher. » La princesse fut diligente à ce qu'il lui avait commandé. En même temps, elle vit des éclairs, elle entendit un bruit de vent et de tonnerre mêlés ensemble qui lui firent une crainte extrême. Malgré sa frayeur, elle tint toujours l'oiseau vert, craignant qu'il ne lui échappât. Elle toucha encore le rocher avec la plume incarnate et, la troisième fois, il se fendit depuis le sommet jusqu'au pied. Elle entra d'un air victorieux dans la salle où les trois princes étaient avec beaucoup d'autres. Elle courut vers Chéri, il ne la reconnaissait point avec son habit et son casque, et puis l'enchantement n'était pas encore fini, de sorte qu'il ne pouvait ni parler ni agir. La princesse, qui s'en aperçut, fit de nouvelles questions à l'oiseau vert, auxquelles il répondit qu'il fallait, avec la plume incarnate, frotter les yeux et la bouche de tous ceux qu'elle voudrait désenchanter. Elle rendit ce bon office à plusieurs rois, à plusieurs souverains, et particulièrement à nos trois princes. Touchés d'un si grand bienfait, ils se jetèrent tous à ses genoux, le nommant le libérateur des rois. Elle s'aperçut alors que ses frères, trompés par ses habits, ne la reconnaissaient point. Elle ôta promptement son casque, elle leur tendit les bras, les embrassa 100 fois, et demanda aux autres princes, avec beaucoup de civilité, qui ils étaient. Chacun lui dit son aventure particulière et ils s'offrirent à l'accompagner partout où elle voudrait aller. Elle répondit qu'encore que les lois de la chevalerie pussent lui donner quelques droits sur la liberté qu'elle venait de leur rendre, elle ne prétendait point s'en prévaloir. Là-dessus, elle se retira avec les princes pour se rendre compte les uns aux autres de ce qui leur était arrivé depuis leur séparation. Le petit oiseau vert qui dit tout les interrompit pour prier Belle Étoile de lui accorder sa liberté. Elle chercha aussitôt la tourterelle afin de lui en demander avis, mais elle ne la trouva plus. Elle répondit à l'oiseau qui lui avait coûté trop de peines et d'inquiétudes pour jouir si peu de sa conquête. Ils montèrent tous quatre à cheval et laissèrent les empereurs et les rois à pied car depuis 200 ou 300 ans qu'ils étaient là, leurs équipages avaient péri. La reine-mère, débarrassée de toute l'inquiétude que lui avait causée le retour des beaux enfants, renouvela ses instances auprès du roi pour le faire remarier et l'importuna si fort qu'elle lui fit choisir une princesse de ses parentes. Et comme il fallait casser le mariage de la pauvre reine Blondine qui était toujours demeurée auprès de sa mère à leur petite maison de campagne avec les 3 chiens qu'elle avait nommés Chagrin, Mouron et Douleur, à cause de tous les ennuis qu'il lui avait causés, la reine-mère l'envoya quérir. Elle monta en carrosse et prit les Dauguin, étant vêtue de noir, avec un long voile qui tombait jusqu'à ses pieds. En cet état, elle parut plus belle que l'astre du jour, quoiqu'elle fût devenue pâle et maigre, car elle ne dormait point et ne mangeait que par complaisance. Pour sa mère, tout le monde en avait grande pitié. Le roi en fut si attendri qu'il n'osait jeter les yeux sur elle. Mais quand il pensait qu'il courait risque de n'avoir point d'autres héritiers que les Dauguin, il consentait à tout. Le jour étant pris pour la noce, la reine-mère, priée par l'amiral Rousse, qui haïssait toujours son infortunée sœur, dit qu'elle voulait que la reine Blondine parût à la fête. Tout était préparé pour la faire grande et somptueuse, et comme le roi n'était pas fâché que les étrangers vissent sa magnificence, il ordonna à son premier écuyer d'aller chez les beaux enfants, les convier à venir, et lui commanda qu'en cas qu'ils ne fussent pas encore venus, il laissa de bons ordres, afin qu'on les avertisse à leur retour. Le premier écuyer les alla chercher et ne les trouva point, mais sachant le plaisir que le roi aurait de les voir, il laissa un de ses gentilshommes pour les attendre, afin de les amener sans aucun retardement. Cet heureux jour venu, qui était celui du grand banquet, Belle Étoile et les 3 princes arrivèrent. Le gentilhomme leur apprit l'histoire du roi, comme il avait autrefois épousé une pauvre fille, parfaitement belle et sage, qui avait eu le malheur d'accoucher de 3 chiens, qu'il avait chassés pour ne la plus voir, que cependant il aimait tant qu'il avait passé 15 ans sans vouloir écouter aucune proposition de mariage, que la reine-mère et ses sujets l'ayant fortement pressé, il s'était résolu à épouser une princesse de la cour, et qu'il fallait promptement y venir pour assister à toute la cérémonie. En même temps, Belle Étoile prit une robe de velours couleur de rose, toute garnie de diamants brillants. Elle laissa tomber ses cheveux par grosses boucles sur ses épaules. Ils étaient renoués de rubans, l'étoile qu'elle avait sur le front jetait beaucoup de lumière, et la chaîne d'or qui tournait autour de son cou, sans qu'on la pût ôter, semblait être d'un métal plus précieux que l'or même. Enfin, jamais rien de si beau ne parut aux yeux des mortels. Ses frères n'étaient pas moins bien, entre autres le prince chéri. Il avait quelque chose qui le distinguait très avantageusement. Ils montèrent tous 4 dans un chariot d'ébène et d'ivoire, dont le dedans était de drap d'or, avec des carreaux de même brodés de pierreries. 12 chevaux blancs le traînaient. Le reste de leur équipage était incomparable. Lorsque Belle Étoile et ses frères parurent, le roi ravi les vint recevoir avec toute sa cour au haut de l'escalier. La pomme qui chante se faisait entendre d'une manière merveilleuse, l'eau qui danse dansait et le petit oiseau qui dit tout parlait mieux que les oracles. Ils se baissèrent tous 4 jusqu'aux genoux du roi et, lui prenant la main, ils la baisèrent avec autant de respect que d'affection. Il les embrassa et leur dit « Je vous suis obligé, aimables étrangers, d'être venus aujourd'hui. Votre présence me fait un plaisir sensible. » En achevant ces mots, il entra avec eux dans un grand salon où les musiciens jouaient de toutes sortes d'instruments et plusieurs tables servies splendidement ne laissaient rien à souhaiter pour la bonne chère. La reine-mère vint, accompagnée de sa future belle-fille, de l'amiral Rousse et de toutes les dames, entre lesquelles on amenait la pauvre reine, liée par le cou avec une longe de cuir et les 3 chiens attachés de même. On la fit avancer jusqu'au milieu du salon où était un chaudron plein d'eau et de mauvaise viande que la reine-mère avait ordonné pour leur dîner. Quand Belle Étoile et les princes la virent si malheureuse, bien qu'ils ne la connussent point, les larmes leur vinrent aux yeux, soit que la révolution des grandeurs du monde les touchât, ou qu'ils fussent émus par la force du sang qui se faisait souvent ressentir. Mais que pensa la mauvaise reine d'un retour si peu espéré et si contraire à ses desseins? Elle jeta un regard furieux sur Saint-Yse, qui désirait ardemment alors que la terre s'ouvrit pour s'y précipiter. Le roi présenta les beaux enfants à sa mère, lui disant mille biens d'eux, et malgré l'inquiétude dont elle était saisie, elle ne laissa pas de leur parler avec un air riant et de leur jeter des regards aussi favorables que si elle les eût aimés, car la dissimulation était en usage dès ce temps-là. Le festin se passa fort gaiement, quoique le roi eût une extrême peine de voir manger sa femme avec ses doguins comme la dernière des créatures. Mais, ayant résolu d'avoir de la complaisance pour sa mère, qui l'obligeait à se remarier, il la laissait ordonner de tout. Sur la fin du repas, le roi, adressant la parole à Belle Étoile, « Je sais, lui dit-il, que vous êtes en possession de trois trésors qui sont incomparables. Je vous en félicite et je vous prie de nous raconter ce qu'il a fallu faire pour les conquérir. » « Sire, dit-elle, je vous obéirai avec plaisir. L'on m'avait dit que l'eau qui danse me rendrait belle et que la pomme qui chante me donnerait de l'esprit. J'ai souhaité les avoir par ces deux raisons. À l'égard du petit oiseau vert qui dit tout, j'en ai eu une autre. C'est que nous ne savons rien de notre fatale naissance. Nous sommes des enfants abandonnés de nos proches qui n'en connaissons aucun. J'ai espéré que ce merveilleux oiseau nous éclaircirait sur une chose qui nous occupe jour et nuit. À juger de votre naissance par vous, répliqua le roi, elle doit être des plus illustres. Mais parlez sincèrement, qui êtes-vous ? Sire, lui dit-elle, mes frères et moi avons différé de l'interroger jusqu'à notre retour. En arrivant, nous avons reçu vos ordres pour venir à vos noces. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été de vous apporter ces trois raretés pour vous divertir. J'en suis très aise, s'écria le roi, ne différons pas une chose si agréable. Vous vous amusez à toutes les bagatelles qu'on vous propose, dit la reine-mère avec colère. Voilà de plaisants marmousets avec leur rareté. En vérité, le nom seul fait assez connaître que rien n'est plus ridicule. Je ne veux pas que de petits étrangers, apparemment de la lie du peuple, aient l'avantage d'abuser de votre crédulité. Tout cela consiste en quelques tours de gibecière et de gobelet. Et sans vous, ils n'auraient pas eu l'honneur d'être assis à ma table. Belle Étoile et ses frères, entendant un discours si désobligeant, ne savaient que devenir. Leur visage était couvert de confusion et de désespoir d'essuyer un tel affront devant toute cette grande cour. Mais le roi, ayant répondu à sa mère que son procédé l'outrait, pria les beaux enfants de ne s'en point chagriner et leur tendit la main en signe d'amitié. Belle Étoile prit un bassin de cristal de roche dans lequel elle versa toute l'eau qui danse. On vit aussitôt que cette eau s'agitait, sautait en cadence, allait et venait, s'élevait comme une petite mer irritée, changeait de mille couleurs et faisait aller le bassin de cristal le long de la table du roi. Puis il s'en élança tout d'un coup quelques gouttes sur le visage du premier écuyer, à qui les enfants avaient de l'obligation. C'était un homme d'un mérite rare, mais sa laideur ne l'était pas moins, et il en avait même perdu un œil. Dès que l'eau l'eut touché, il devint si beau qu'on ne le reconnaissait plus, et son œil se trouva guéri. Le roi, qui l'aimait chèrement, eut autant de joie de cette aventure que la reine-mère en ressentit de déplaisir, car elle ne pouvait entendre les applaudissements qu'on donnait au prince. Après que le grand bruit fut cessé, Belle Étoile mit sur l'eau qui danse la pomme qui chante, faite d'un seul rubis, couronnée de diamants, avec sa branche d'ambre. Elle commença un concert si mélodieux que 100 musiciens se seraient fait moins entendre. Cela ravit le roi et toute sa cour, et l'on ne sortait point d'admiration, quand Belle Étoile tira de son manchon une petite cage d'or d'un travail merveilleux où était l'oiseau vert qui dit tout. Il ne se nourrissait que de poudre de diamant et ne buvait que de l'eau de perles distillée. Elle le prit bien délicatement et le posa sur la pomme qui se tut par respect afin de lui donner le temps de parler. Il avait ses plumes d'une si grande délicatesse qu'elles s'agitaient quand on fermait les yeux et qu'on les rouvrait proche de lui. Elles étaient de toutes les nuances de vert que l'on peut imaginer. Il s'adressa au roi et lui demanda ce qu'il voulait savoir. « Nous souhaitons tous apprendre, répliqua le roi, qui sont cette belle fille et ces trois cavaliers. « Ô roi, répondit l'oiseau vert avec une voix forte et intelligible, elle est ta fille et deux de ses princes sont tes fils. Le troisième, appelé Chéri, est ton neveu. » Là-dessus, il raconta avec une éloquence incomparable toute l'histoire, sans négliger la moindre circonstance. Le roi fondait en larmes et la reine affligée, qui avait quitté son chaudron, ses os et ses chiens, s'était approchée doucement. Elle pleurait de joie et d'amour pour son mari et pour ses enfants. Car pouvait-elle douter de toute la vérité de cette histoire quand elle leur voyait toutes les marques qui pouvaient les faire reconnaître? Les trois princes et Belle Étoile se levèrent à la fin de leur histoire. Ils vinrent se jeter aux pieds du roi, ils embrassaient ses genoux, ils baisaient ses mains. Il leur tendait les bras, il les serrait contre son cœur. L'on n'entendait que des soupirs, hélas, des cris de joie. Le roi se leva et, voyant la reine sa femme, qui demeurait toujours craintive, proche de la muraille, d'un air humilié, il alla à elle et lui faisant mille caresses, il lui présenta lui-même un fauteuil auprès du sien et l'obligea de s'y asseoir. Les enfants lui baisèrent mille fois les pieds et les mains. Jamais spectacle n'a été plus tendre ni plus touchant. Chacun pleurait en son particulier et levait les mains et les yeux au ciel pour lui rendre grâce d'avoir permis que des choses si importantes et si obscures fussent connues. Le roi remercia la princesse qui avait eu le dessein de l'épouser et lui laissa une grande quantité de pierreries. Mais à l'égard de la reine-mère, de l'amiral et de Feintise, que n'aurait-il pas fait contre elle s'il n'avait écouté que son ressentiment? Le tonnerre de sa colère commençait à gronder lorsque la généreuse reine, ses enfants et Chéri le conjurèrent de s'apaiser et de vouloir rendre contre elle un jugement plus exemplaire que rigoureux. Il fit enfermer la reine-mère dans une tour. Mais pour l'amiral et Feintise, on les jeta ensemble dans un cachot noir et humide où elle ne mangeait qu'avec les trois doguins, appelés Chagrin, Mouron et Douleur, lesquels, ne voyant plus leur bonne maîtresse, mordaient celle-ci à tout moment. Elles y finirent leur vie, qui fut assez longue, pour leur donner le temps de se repentir de tous leurs crimes. Dès que la reine-mère, l'amiral Rousse et Feintise eurent été emmenées, chacune dans le lieu que le roi avait ordonné, les musiciens recommencèrent à chanter et à jouer des instruments. La joie était sans pareille. Belle Étoile et Chéri en ressentaient plus que tout le reste du monde ensemble. Ils se voyaient à la veille d'être heureux. En effet, le roi, trouvant son neveu le plus beau et le plus spirituel de toute sa cour, lui dit qu'il ne voulait pas qu'un si grand jour se passât sans faire des noces et qu'il lui accordait sa fille. Le prince, transporté de joie, se jeta à ses pieds. Belle Étoile ne témoigna guère moins de satisfaction. Mais il était bien juste que la vieille princesse, qui vivait dans la solitude depuis tant d'années, la quitta pour partager l'allégresse publique. Cette même petite fée qui était venue dîner chez elle et qu'elle reçut si bien y entra tout d'un coup pour lui raconter ce qui se passait à la cour. « Allons-y, continua-t-elle, je vous apprendrai pendant le chemin les soins que j'ai pris de votre famille. » La princesse, reconnaissante, monta dans son chariot. Il était brillant d'or et d'azur, précédé par des instruments de guerre et suivi de 600 gardes du corps qui paraissaient de grands seigneurs. Elle raconta à la princesse toute l'histoire de ses petits-fils et lui dit qu'elle ne les avait point abandonnés, que sous la forme d'une sirène, sous celle d'une tourterelle, enfin de mille manières, elle les avait protégés. « Vous voyez, ajouta la fée, qu'un bienfait n'est jamais perdu. » La bonne princesse voulait à tout moment baiser ses mains pour lui marquer sa reconnaissance. Elle ne trouvait point de termes qui ne fussent au-dessous de sa joie. Enfin, elles arrivèrent. Le roi les reçut avec mille témoignages d'amitié. La reine Blondine et les beaux enfants s'empressèrent, comme on le peut croire, à témoigner de l'amitié à cette illustre dame. Et lorsqu'ils surent ce que la fée avait fait en leur faveur et quelle était la gracieuse tourterelle qui les avait guidés, il ne se peut rien ajouter à tout ce qu'ils lui dirent. Pour achever de combler le roi de satisfaction, elle lui apprit que sa belle-mère, qu'il avait toujours prise pour une pauvre paysanne, était née princesse souveraine. C'était peut-être la seule chose qui manquait au bonheur de ce monarque. La fête s'acheva par le mariage de Belle Étoile avec le prince Chéri. L'on envoya quérir le corsaire et sa femme pour les récompenser encore de la noble éducation qu'ils avaient donnée aux beaux enfants. Enfin, après de longues peines, tout le monde fut satisfait. L'amour n'en déplaise au censeur est l'origine de la gloire. Il fait animer les grands cœurs, à braver le péril, à chercher la victoire. C'est lui qui, dans tout l'univers, a du prince chéri conservé la mémoire et qui lui fit tenter tous les exploits divers que l'on remarque en son histoire. Du moment qu'au beau sexe on veut faire sa cour, il faut se préparer à servir ses caprices. Mais un cœur ne craint pas les plus grands précipices s'il a pour l'animer et la gloire et l'amour.